Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Alors le mois dernier, nous avons parlé mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet profondément humain et souvent méconnu, voire mal compris, la parentalité chez les personnes en situation de handicap. Alors à travers les histoires inspirantes, les défis surmontés, les succès célébrés de nos invités, nous allons découvrir la force et la résilience des parents handicapés et explorer les questions cruciales qui entourent cette expérience unique. Pour cela, toujours à mes côtés, Anne Clémence, directrice de la communication au Clos du Nid. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Alors si on se situe au niveau européen, il faut savoir qu'une étude menée par Eurostat en 2017 a révélé qu'environ 13,3% des personnes handicapées dans l'Union européenne étaient des parents. Au niveau français, près de 650 000 enfants ont au moins un parent en situation de handicap. Alors plein de questions se posent naturellement à l'évocation de la parentalité. Il y a bien entendu l'accessibilité. On parle souvent d'accessibilité dans nos émissions. Alors qu'en est-il par rapport aux besoins des parents en situation de handicap? Qu'en est-il de l'accès aux services de santé et de soutien, aux discriminations et préjugés, à l'estime de soi et à l'acceptation ou encore aux préoccupations pour l'avenir? Les parents handicapés peuvent être confrontés à une variété de défis allant des services de garde d'enfants à la stigmatisation sociale. Il est essentiel ici de reconnaître que les parents handicapés ont les mêmes besoins et désirs que les parents non handicapés, mais ils peuvent avoir besoin de soutien supplémentaire pour surmonter les obstacles liés à leur handicap. Alors cela peut inclure des ajustements au domicile, un accès accru aux services de santé et de soutien familial, ainsi qu'une sensibilisation accrue de la part de la société dans son ensemble. Et dans cette émission, nous allons évoquer le dispositif d'accompagnement à la parentalité qui permet de soutenir des personnes qui souhaitent devenir parents, qui le sont et rencontrent des difficultés. Difficultés que rencontre d'ailleurs tout un chacun. Alors pour en parler avec nous, nous avons Vincent Lioré, coordinateur du pôle Travail Habitat, directeur du foyer d'hébergement de la Collagne. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous avons Émilie Pouzet-Robert, directrice générale adjointe à la solidarité sociale du conseil départemental de la Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Edith Liedos, juge des enfants et juge des tutelles. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom, si c'est comme ça.
Parfait.
Et nous avons également Steven qui est là, qu'on entendra en deuxième partie d'émission. On va lui laisser quand même dire bonjour, oui, qui est là, qui est un jeune parent.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vincent Lioré, on va commencer avec vous. Alors, vous occupez du dispositif de soutien à la parentalité. Alors, ça va être central dans cette émission. Expliquez-nous un peu ce que c'est, en quoi ça consiste.
Le dispositif de soutien à la parentalité donc, permet d'accompagner les personnes en situation de parentalité qui sont hébergées dans les dispositifs qui sont portés par le pôle Travail et Habitat Inclusif. Donc des dispositifs et des sites d'hébergement pour adultes. Mais effectivement, depuis quelques années, le Clos du Nid a participé, en tous les cas, à l'accompagnement des situations de parentalité. De fait, parce qu'effectivement, des personnes ont souhaité et ont eu des enfants, et donc nous sommes mis un petit peu à la tâche, une approche expérientielle d'abord, c'est-à-dire au fil du temps et des expériences, on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait être apporté, de quels besoins on parlait, et ce dispositif est donc maintenant en capacité de soutenir les parents dans leur parentalité, au même titre qu'on pourrait compenser ou accompagner les personnes en situation de handicap sur d'autres besoins. Aujourd'hui, le dispositif les accompagne sur les besoins repérés pour être parents.
Alors justement, quel type de besoins ?
Alors les besoins repérés sont effectivement... Alors Steven, jeune papa, nous en dira, nous donnera les siens en tous les cas. Mais ce qu'on repère en première intention, c'est effectivement d'abord le besoin d'être rassuré sur la question du désir d'enfant. Donc ça, c'est le premier objectif sur lequel on travaille, c'est-à-dire les personnes ont des désirs d'enfant, comme tout un chacun, et donc souhaitent être rassurées sur un certain nombre de choses. Et on vient un petit peu étayer, ou en tous les cas... alerter sur certains sujets, la compatibilité entre les traitements qui sont pris pour certaines pathologies et puis effectivement la grossesse, essayer d'apporter des indications que pourrait apporter une famille. Voilà, mais souvent les personnes que nous avons, en tous les cas, n'ont pas de famille proche ou alors elles sont éloignées et donc on va un petit peu alerter sur un certain nombre de choses, sur qu'est-ce que c'est être parent, c'est se lever la nuit, c'est ainsi de suite. Et on va regarder un petit peu, en tous les cas, dès que le désir d'enfant se fait apparaître. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du besoin post-natal, j'allais dire, c'est-à-dire l'accompagnement que Et la guidance qui est donc là mise en œuvre avec les services du département, en partenariat avec les services du département, que sont la PMI, dans un premier temps, les sages-femmes à domicile, enfin les TISF s'il y en a besoin, enfin un certain nombre de dispositifs que le département précisera, qui viennent compenser en fait ces besoins très techniques, en fait, de comment on s'occupe d'un enfant. Voilà, et qui pose une première évaluation, mais comme on le fait aussi dans le droit commun, avec la particularité que peut-être le DSP est là aussi pour retraduire, voilà, des choses qui peuvent paraître complexes pour certains parents.
Ça pourrait être ouvert aux parents qui n'ont pas de handicap aussi, parce que c'est des questions que tout le monde se pose,
tout à fait.
Hein, finalement.
Oui. Tout à fait. Avec cette particularité, donc cette spécificité qui est le dispositif de soutien à la parentalité, qui a une connaissance maintenant accrue de la question du handicap dans son ensemble, la maladie psychique, la déficience, les difficultés cognitives. Et donc ça permet, entre autres, de venir rassurer aussi les parents, les jeunes parents, les nouveaux parents sur un certain nombre de choses et les accompagner dans ces premiers temps de la parentalité. Voilà. Y a une équipe qui est dédiée à ça, donc de 4-5 personnes avec des éducateurs, des TISF en interne, et puis peut-être on verra par la suite d'autres métiers. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, ben, la vie de l'enfant se poursuit, j'allais dire. Et donc on va venir aussi là traduire peut-être les difficultés que vont rencontrer ses parents dans le monde qui les entoure, les difficultés d'éveil de l'enfant, les difficultés de développement de l'enfant, les difficultés de rencontre avec la scolarité, les difficultés, toutes les difficultés que pourraient rencontrer quelques parents que ce soit, avec une particularité, c'est le public que nous accueillons en tous les cas sur les sites d'hébergement, qui sont qu'effectivement les parents de ces personnes que nous accueillons sont loin, souvent, où ils n'en ont pas, où il y a eu des parcours complexes et difficiles, avec peut-être des placements, avec peut-être un certain nombre d'éléments comme ça complexes. Et donc on vient aussi rassurer les jeunes parents en situation de handicap sur le fait que on n'est pas obligé de reproduire tout ce qui a pu se passer dans la vie. Et nous, on va essayer en tous les cas de les aider à faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà un petit peu comment on s'attelle à la tâche, j'allais dire, sur ces questions de parentalité, avec des choses, en tous les cas, avec la volonté de toujours permettre à la personne en situation de handicap, ou au couple, ou à la personne, en fonction de ce qui se passe après, de pouvoir être parent. Dans quelques conditions que ce soit, garder ce statut de parent. Voilà. Avec des enfants qui sont présents dans nos dispositifs, ou d'autres qui sont pas là tout le temps, on va dire, et donc de permettre aussi la mise en place de cette coparentalité, alors je dis coparentalité, avec les familles d'accueil, quand les enfants sont placés, avec les partenaires qui soutiennent, enfin voilà. Le dispositif de soutien à la parentalité, il sert à ça, il sert en fait à coordonner un petit peu toutes ces actions autour de la personne adulte en situation de handicap, parce que notre métier, principalement, c'est les adultes, on va dire, dans tout simplement les autorisations qu'on a d'hébergement, c'est les adultes, et on les soutient sur cette question de la parentalité, comme on les soutient sur l'accès au travail, comme on les soutient sur l'accès au logement.
Et sur l'inclusion, sur l'inclusion voilà. Professionnelle et sur toute autre chose.
Voilà.
Depuis quand il existe ce dispositif ?
Alors, le dispositif de soutien à la parentalité, il existe depuis longtemps. La parentalité existe depuis longtemps au Claude-Uny, puisque ça fait maintenant 70 ans que le Claude-Uny existe, en tous les cas, sur ses formes d'hébergement.
Et encore un coup, le Claude-Uny a été très précurseur et très en avance sur cette idée de parentalité, hein, puisque l'abbé Auziol avait déjà énormément été très ouvert à cette question-là, déjà.
Et le dispositif de soutien à la parentalité, enfin, la question de la parentalité au sens d'accompagnement de la parentalité, ça fait une dizaine d'années que le dispositif est en construction, on va dire, à peu près, je pense.
Mais réellement structuré, avec des locaux, une équipe Didier,
voilà,
et tout ça.
Ça fait trois ans qu'il est structuré.
Voilà, 3 ans, voilà.
D'accord, oui, c'est récent quand même, c'est tout récent. Vous parliez de vos partenaires, on a parlé du conseil départemental. Peut-être nous expliquer un peu, vous, votre rôle pour dans ce dispositif.
Oui, alors le conseil départemental intervient à deux titres pour le handicap et la parentalité. Au titre du handicap, ce sera un rôle de tutelle sur les établissements. Donc tutelle, ça veut dire qu'on est chargé de l'autorisation. Hein. Monsieur Yuri a fait allusion plusieurs fois, donc on donne les autorisations de fonctionner. On donne des budgets aussi, donc on arrête les prix de journée et puis on contrôle quand il y a des incidents ou des contrôles réguliers. Voilà, donc ça c'est sur la partie handicap. Et après, le département est en charge de la politique de la PMI, donc protection maternelle et infantile. Et là, qui a une portée généraliste. Donc la PMI ne s'adresse pas, bien sûr, qu'au dispositif du Clos du Nid. Toute femme avec enfant peut aller consulter la PMI. Hein. Donc ça, quand vous disiez, ce serait bien qu'il y a des outils d'aide à la parentalité pour tout un chacun, oui. Donc ça fait partie des missions de la PMI, de même qu'il y a des dispositifs de la CAF qui existent. Voilà, donc ça, c'est au titre de la PMI. Et on a également la compétence de l'aide sociale à l'enfance, donc qui est tout le service qui travaille là en étroite collaboration avec la juge des enfants quand il y a des difficultés et puis des placements parfois d'enfants. Quand la sécurité ou le bien-être de l'enfant n'est pas totalement garanti au sein de sa famille naturelle.
Et du coup, comment ça s'est passé sur la construction de ce dispositif parentalité entre le conseil départemental et le Clos du Nid ? Vous fonctionnez comment, là ?
Alors, vous étiez à l'origine, alors allez-y, je complète.
Donc... comment ça s'est passé? En fait, c'est une histoire de partenariat, c'est-à-dire la construction d'un partenariat, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas à pas, au fil des expériences, parce qu'il n'y a pas de doctrine, si ce n'est la doctrine de droit commun, qui dit que effectivement toute femme avec enfant, comme vous l'avez dit, a droit à consulter ou être accueilli par la PMI. Et l'idée, ça a été effectivement de construire un petit peu ce partenariat et de se positionner comme un outil de coordination, c'est-à-dire...
Un facilitateur, en fait.
Un facilitateur, un outil de coordination, en tous les cas, de la relation entre le département, que ce soit la PMI ou l'ASE, dans sa doctrine protection, et donc de faire le lien entre... les personnes en situation de handicap et de parentalité, et ces dispositifs, avec cet esprit toujours, je l'ai dit tout à l'heure, de traduction, parce que c'est pas facile de comprendre effectivement une discussion, même si les professionnels de la PMI ou de l'ASE sont des professionnels éducateurs, puéricultrices, sages-femmes, mais... aborder la question du handicap, ben, ça nécessite avoir un peu une connaissance, avoir effectivement le contexte de vie de la personne qu'on accompagne. Et donc le DAE, c'est le dispositif d'accompagnement à la parentalité, c'est positionné sur cette facilitation et cette coordination pour justement favoriser la prise en main ou la prise en charge ou l'accompagnement des personnes dans leur parcours de PMI, d'ASE, ainsi de suite. Voilà un petit peu comment ça s'est construit, avec des fois des différences de point de vue, mais qui s'atténuent, enfin un certain nombre de choses comme ça, pour arriver au fil du temps à ce que l'objectif, ce soit le fait que les personnes que nous accompagnons puissent être parents dans de bonnes conditions, avec aussi cette dimension de... Bien sûr que d'accompagnement de la famille, parce que même si on est dans un établissement pour adultes, au fil du temps, il y a la construction d'une famille, et donc on accompagne en clair la famille. Au début, on était quand même, il faut le reconnaître, sur, un déplacement de ce que les prestations classiques d'un foyer d'hébergement, le soutien à la tenue du logement, le soutien à faire les courses, le soutien à un certain nombre de choses comme ça, voilà. Plus éducatif, ce qu'on appelle éducatif, on déplaçait ça à l'extérieur et puis on continuait ce travail-là. Mais effectivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas la seule chose qu'il fallait prendre en charge, même s'il y avait un enfant qui arrivait en plus. Il y avait d'autres enjeux sur le développement cognitif de l'enfant, sur l'éveil de l'enfant, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on participe en tous les cas à essayer de faire un lien avec, avec, ben, pour le coup, la crèche, avec la médiathèque, si, si on... voilà.
Donc, ouais, donc cas, l'objectif, c'est bien de faire le lien avec les services de droit commun, avec le droit commun.
L'objectif, c'est celui-là, c'est effectivement de se positionner comme un facilitateur pour aller vers le droit commun, même si le droit commun est des fois complexe à aborder, à approcher. Voilà. Donc notre objectif, c'est celui-là, pour les parents, tous les cas. Dans un, avec une double entrée, la volonté des parents, parce qu'on fonctionne par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite, moi, pour mon enfant, qu'est-ce que je souhaite pour ma famille, qu'est-ce que je souhaite, voilà. Donc cette capacité à faire émerger le fait que, voilà, moi, je souhaite ça, je souhaite ça, je souhaite ça. Et puis l'accompagnement, effectivement, ben oui, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. C'est-à-dire entre ce que je veux et puis ce qu'il faut aussi que je fasse, il y a des pas de côté à faire pour les uns et pour les autres. Donc voilà un petit peu comment on se positionne par rapport à tout ça.
Oui, alors c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment intéressant, mais qui est encore, je dirais, en construction, dans le sens où on n'a pas forcément trouvé complètement le parfait modèle de ce dispositif de soutien à la parentalité. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant, c'est ces échanges, ces recherches, voilà, et cette expertise que chacun apporte, l'expertise de la personne en situation de handicap pour le Claude Uni, et peut-être l'expertise plus pour le conseil départemental des besoins de l'enfant. Et c'est comment ces deux expertises se rencontrent. Et qu'est-ce qui, parfois, peut être aussi prioritaire ou... Voilà, donc c'est un modèle, je pense, encore en construction et qui ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une autorisation spécifique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas défini, c'est un service de plus au sein d'une autorisation de foyer d'hébergement, mais voilà, qui ne fait pas l'objet aujourd'hui d'une forme juridique spécifique.
Alors c'est quelque chose d'assez innovant. Je ne crois pas que ça existe de façon structurée comme ça. Est-ce que ça existe dans d'autres départements, dans beaucoup de départements? Moi, j'ai regardé aussi structuré de cette façon-là. Je crois que c'est assez unique, encore une fois. La Lozère innove, encore une fois.
Alors, allez-y.
Moi, j'ai pas de. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai découvert en venant en Lozère et c'est très intéressant et je pense très nécessaire. Donc, c'est la Lozère est innovante de ce point de vue-là. Mais après, j'ai pas mené un travail de comparaison, de benchmark partout ailleurs.
Voilà. En fait, effectivement, on a été, je pense, précurseur à un moment donné, y compris au niveau régional. Les besoins se faisant sentir. Les gens sont en train de s'y mettre. Enfin, moi, je suis régulièrement contacté par tout un tas de dispositifs. Il y a l'ARS a, me semble-t-il, financé à l'échelle de l'Occitanie un espèce de dispositif de soutien, mais bon, qui est basé à Toulouse et qui est vraiment plus, j'allais dire, un dispositif de soutien des structures qui souhaiteraient, en tous les cas, ou qui seraient confrontées à ce genre de difficultés. Enfin, de difficultés au sens de la complexité de certains accompagnements, on va dire ça plutôt comme ça. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'existe pas aujourd'hui. Il y a quelques, qu'on est allé d'ailleurs visiter, quelques maisons qu'on appelle des centres de parentalité, voilà, mais qui ne sont pas forcément 100% handicap, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en route. Mais je crois que la particularité du dispositif de soutien parentalité, je crois que c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est que pour l'instant, en tous les cas, il s'adresse vraiment à une population qui est hébergée, donc avec des orientations spécifiques de la MDPH, parce que voilà, une orientation au foyer d'hébergement.
Au titre du handicap.
Au titre du handicap. Une orientation au titre des travailleurs ESAT, donc c'est deux orientations qui sont données dans le cadre de la MDPH, dans un cadre. Voilà. Et à ma connaissance, effectivement, on est, me semble-t-il, le seul dispositif un peu spécifique sur ce public. Voilà, qui est orienté. Voilà, c'est pas un dispositif qui serait en centre-ville où toutes les personnes en situation de handicap pourraient venir. Voilà, ce qu'on peut retrouver effectivement dans d'autres endroits. Voilà, c'est peut-être la particularité, j'allais dire, un peu du dispositif Marvejolais, enfin, Lozérien.
Juge des tutelles et juge des enfants, c'est habituel ça qu'on ait de rôles comme ça ?
Alors c'est habituel dans les petites juridictions où nous sommes peu de magistrats, donc nous exerçons au tribunal judiciaire de Mende, chaque magistrat exerce plusieurs fonctions. Donc en ce qui me concerne, en effet, c'est juge des enfants et juge des tutelles. Et c'est dans ce cadre-là, alors les juges, le tribunal, on est un peu à part dans un premier temps. Donc le constat, je l'ai fait rapidement, qu'il n'y avait pas ou pas assez de prise en compte du handicap des parents dans l'évaluation de leurs compétences parentales. Donc les premières années, je suis arrivée en 2021, j'ai pu faire le constat tant avec les parents que je rencontrais avec ma casquette juge des tutelles que dans le cadre du juge des enfants, des parents en souffrance parce que n'était pas ce qui leur était demandé, ce qui était attendu d'eux, allait parfois au-delà de ce dont ils étaient capables. Et ils avaient pour beaucoup le sentiment d'être considérés comme des mauvais parents. Donc, moi, j'ai fait ce constat déjà là, toute seule, avec ces deux fonctions-là. Et l'avantage de la Lozère, c'est qu'on n'est pas le seul juge dans sa tour d'ivoire. Hein. On travaille en partenariat. Et mes constats, j'ai pu les partager. Ça a été la rencontre avec M. Yoré, où les constats ont été partagés. Et... comment, de ma place, comment on pouvait valoriser ce que proposait le Clos d'Uni. Donc ça s'est rapidement mis en place à partir du moment où j'ai pu, on m'a servi ce dispositif sur un plateau. Il ne me suffisait plus que de le mettre en œuvre et le traduire dans les décisions que je prenais. Quand j'interviens pour le dispositif du soutien à la parentalité, c'est souvent pour des enfants, mais la plupart du temps, des enfants qui sont placés, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a eu une évaluation des difficultés et des fragilités des parents à prendre en charge leur enfant au quotidien, où là, sur requête du procureur de la République, le juge des enfants est saisi. Et je suis amenée à confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance.
D'accord. C'est vous qui vous occupez de cette évaluation, du coup ?
Alors, l'évaluation, elle est faite la plupart du temps par le département.
C'est le département.
Par les services de l'aide sociale à l'enfance. Okay. Et ils transmettent leur évaluation qui remonte d'informations diverses, des professionnels du Clos d'Uni qui peuvent aussi signaler à un moment donné qu'il y a des difficultés dans la prise en charge d'un enfant ou ne serait-ce ou même en prénatalité, c'est-à-dire que dès la grossesse, les professionnels sont en capacité d'identifier que à l'arrivée de l'enfant, il va y avoir des difficultés sur la prise en charge et sur la un des éléments qui justifie ma saisine, ça va être la difficulté pour certains parents d'être dans la permanence du soin et de la prise en charge. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il arrive au monde, on ne peut pas être... Ce n'est pas un poupon qu'on laisse de côté. Il y a une constance et une permanence. Et pour faire le lien avec ce que disait M. Lioré tout à l'heure, c'est que parfois, certains parents vont avoir des traitements qui ne leur permettent pas cette disponibilité-là permanente. Donc c'est souvent ce qui justifie un placement de l'enfant dès la maternité. Et là, il est confié à l'aide sociale à l'enfance. Ce qui génère une souffrance immense pour ses parents, parce que cet enfant-là a été désiré, attendu. Et face à cette souffrance-là... D'abord, toute seule dans mon coin, je savais pas comment les apaiser et ne surtout pas leur faire penser que parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de leur enfant, ça faisait d'eux de mauvais parents. Donc, quand on m'a servi ce dispositif sur un plateau, ça a été assez facile de concrétiser ce qui était déjà en place et de le traduire dans les décisions de justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les parents qui sont hébergés au Clos d'Uni et dont les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, je vais leur accorder des droits de visite avec leur enfant, ou même des droits de visite et d'hébergement, sous la vigilance du dispositif de soutien à la parentalité. Ce qui garantit la sécurité de l'enfant et ce qui permet, ça c'est la première chose à vérifier, c'est que l'enfant est en sécurité quand il voit ses parents. Et ensuite, ça permet un accompagnement des parents au long cours. On n'est pas uniquement sur un travail pendant la visite. C'est-à-dire que la visite et la rencontre avec l'enfant, elle se prépare en amont, elle est anticipée, elle est avec le soutien des mandataires. Avec les mandataires, c'est ceux pour les parents qui sont sous curatelle renforcée ou sous tutelle. Il y a un mandataire qui accompagne aussi la parentalité. Et ensuite, après la visite, il y a un débriefing de ce qui allait pas, de ce qui convient de faire pour la prochaine fois. Donc c'est vraiment accompagner les parents. Alors moi, dans le jargon éducatif et juridique, c'est identifier les besoins de l'enfant. Parce que la première difficulté de ses parents va être de comprendre l'enfant, il pleure, quel est son besoin ? Il a faim, il a besoin d'être changé, il a trop chaud. Et souvent, les parents sont en difficulté pour comprendre. Et l'accompagnement que j'observe, par ailleurs, par des professionnels qui sont compétents dans la petite enfance, mais qui n'arrivent pas à faire le lien entre les compétences des parents en situation de handicap et ce qu'on attend habituellement d'un parent qui n'a pas ces difficultés de compréhension ou d'ajustement ou d'adaptation.
Voilà, vous devez trouver l'équilibre en fait entre la protection de l'enfant et le respect des droits des parents.
Et surtout une réelle considération de... parfois, certains parents vont donner le meilleur d'eux-mêmes et tout l'amour qui va avec, et ça ne suffit pas pour prendre en charge un enfant au quotidien. Donc l'objectif, c'est vraiment... et moi, c'est ce que je leur dis souvent quand je les vois régulièrement. Hein, les décisions de placement sont pour un an ou pour deux ans. Donc je les rencontre annuellement dans mon cabinet. Et à chaque fois, je leur dis, être un bon parent, c'est être en capacité de prendre une bonne décision. Et parfois, la bonne décision, c'est d'accepter qu'un enfant, il va grandir dans une famille d'accueil. Il va s'épanouir avec des personnes qui sont en capacité d'identifier et de répondre aux besoins, et que nous, notre rôle, en lien avec les référents de l'aide sociale à l'enfance et le dispositif de soutien à la parentalité, va être, sur les temps de rencontre, de favoriser ce qu'on appelle le lien d'attachement. Et ce lien, il se construit petit à petit, et chacun à la hauteur de ses capacités.
Alors, vous dites qu'on vous a servi le dispositif de soutien à la parentalité sur un plateau, donc on revient sur l'innovation, sur quelque chose d'assez peu commun, finalement. Et du coup, concrètement, vous vous y appuyez comment sur ce dispositif ? Concrètement, ça se passe comment ? Alors, vous venez de l'expliquer un petit peu.
Alors, concrètement, si on parle du droit commun, quand il s'agit d'accompagner, de médiatiser les rencontres entre un parent et un enfant, pour des raisons... diverses, c'est l'espace rencontre amende qui a cette mission de médiatiser les rencontres entre les parents et les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Médiatiser, ça veut dire lorsqu'il y a une...
Il y a un tiers qui intervient. Il y a un tiers qui intervient. Donc la première chose que j'avais mis en place avant de connaître le dispositif de soutien à la parentalité, c'était l'intervention des TISF, des travailleuses familiales, qui interviennent à domicile. Et j'étais partie du postulat, justement par rapport à ses parents sous mesure de curatelle ou de tutelle. Je savais, par le travail des mandataires, que l'arrivée de l'enfant était préparée, était attendue, un budget était fixé, le matériel était acheté, la chambre était prête. Et ça me paraissait inconcevable que cet enfant n'arrive jamais à cet endroit-là parce que, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, il va être confié dès la maternité à l'aide sociale à l'enfance. Donc je trouvais que symboliquement, c'était essentiel que cet enfant arrive à l'endroit qui avait été prévu pour lui. Alors, il y arrive dans le cadre, quand j'accorde des droits de visite simples en présence constante d'un tiers. Donc ça permet que le nourrisson vienne régulièrement, une fois par semaine, deux fois par semaine, en fonction des capacités des parents à être présents à ce moment-là. Mais il arrive à son domicile. Je trouvais très violent, quelque part, que ces visites-là se fassent à l'espace rencontre, parce que c'est un endroit neutre, certes sécurisé, mais ce n'était pas le lieu où il était attendu. Donc ça, ça a été la première chose que moi, j'ai pu mettre en place toute seule, parce qu'il me suffisait d'ordonner la présence constante du tiers pour permettre que l'enfant arrive. Mais ce n'était pas suffisant, parce que l'intervention des TISF, elle est régulière, mais ponctuelle. Donc les visites étaient limitées à quelques heures, et ça ne permettait pas d'envisager des droits de visite et d'hébergement. Donc l'étape suivante a été effectivement la rencontre avec le dispositif de soutien à la parentalité, qui là permettait d'envisager que cet enfant, en grandissant, il puisse aussi aller au domicile de ses parents régulièrement, ponctuellement, et petit à petit, on élargit, on accompagne et on soutient réellement les parents pour ajuster aussi leur posture. Parce que ce que j'observe aussi concernant certains parents, c'est qu'ils avancent pas à pas. Ils vont identifier que les besoins d'un bébé vont être, il faut le nourrir, le changer, le laver, avoir un rythme adapté, être calme. Donc ça, il l'identifie. Sauf que l'enfant, il grandit. Donc le mois d'après, 6 mois après, c'est plus les mêmes besoins. Il va commencer à bouger. Donc là, on va être sur, à chaque fois, un autre apprentissage et d'autres difficultés, parce que ça change tout le temps, un enfant. Et l'hébergement, même si l'enfant il va grandir et devenir de plus en plus autonome, pour autant, le parent il va pas être en capacité d'imaginer de nouvelles solutions, parce que tout d'un coup, il va se mettre à gambader, à se mettre en danger, à traverser la rue sans... Donc c'est toute cette vigilance-là qui est réellement ajustée aux compétences des parents. Et aujourd'hui, je sais que dans le cadre du dispositif au soutien à la parentalité, j'ai la garantie qu'on évolue autant avec l'enfant qui grandit que les compétences des parents qui doivent se renouveler chaque fois que l'enfant revient au domicile.
Ouais, vous pouvez vous y appuyer pour franchir chacune des étapes.
Et on franchit les étapes ensemble, on les valorise, parce que des parents, dans un cadre où, comme l'indiquait tout à l'heure M. Lioré, il faut qu'ils soient rassurés pour être sereins quand ils voient leurs enfants. Il faut aussi qu'il y a tout le travail annexe, c'est-à-dire que quand il y a des addictions, quand ils prennent conscience que ça va impacter, ça va avoir un impact sur la relation avec leur enfant. Donc c'est toute cette prise de conscience qui est travaillée par ailleurs, parce qu'encore une fois, les droits, c'est pas uniquement le temps où l'enfant est présent. C'est ce qui se passe avant et c'est ce qui se passe après. Et le dernier point aussi qui nous est apparu essentiel, c'est que le temps de l'audience, quand je les vois à l'échéance de la mesure et qu'on va ouvrir de nouvelles perspectives, est un moment déjà chargé d'émotions pour les parents, de stress. Steven me contredira pas, je pense. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Et jusqu'à ce que le dispositif intervienne, ils n'étaient pas présents à l'audience. Donc le parent venait seul, alors souvent accompagné de son mandataire, mais il n'y avait pas le travail en amont de l'audience. Et une audience, il se dit beaucoup de choses, ça dure à peu près une heure. Et ils ressortent de ce temps d'audience, ils ont entendu beaucoup de choses, ils n'ont pas forcément compris tout ce qu'on attendait d'eux. Et donc quand ils revenaient sur leur lieu de vie, ça générait aussi beaucoup d'incompréhension. Parfois, certains ne disaient même pas que l'audience avait eu lieu. Donc les droits changeaient et les professionnels qui les prenaient en charge au quotidien n'étaient pas forcément informés. Donc là, aujourd'hui, en désignant dans les jugements le dispositif de soutien à la parentalité, l'audience aussi est préparée en amont, expliquée. Sur le temps de l'audience, ça permet réellement de parler du concret et du réel, et pas être dans des grandes phrases éducatives ou des grands discours et des grands principes auxquels certaines n'ont pas accès légitimement. Pour être éducateur, il faut des années d'études. Donc, on ne peut pas non plus exiger des parents cette compréhension-là. Et ensuite, après l'audience, parce qu'il y a toute cette émotion qui va venir empêcher parfois aussi la compréhension, c'est repris calmement. Et je sais que les jugements que je rédige et auxquels j'essaie d'être très vigilante sur ce que j'écris sont également repris. Et ça fait trace aussi dans le parcours des parents et des enfants pour plus tard.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
Et vous fonctionnez aussi avec les services du coup de l'ASE, de la PMI, c'est un,
alors,
c'est
de un manière, fonctionnement global oui. Alors de manière indirecte avec la PMI, mais quand je confie un enfant à l'aide sociale à l'enfance, il y a un référent de l'aide sociale à l'enfance qui est désigné, qui participe à l'audience et qui est là pour faire le lien entre les parents, les dispositifs de droit commun ou le dispositif de soutien à la parentalité, l'école, la famille d'accueil ou la maison d'enfants à qui l'enfant ou l'enfant est hébergé au quotidien.
Hors TSP, on a cette habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire que le TSP, effectivement, a cette particularité de nous rassembler peut-être plus fréquemment. Mais cette habitude de travailler entre un département, une aide sociale à l'enfance et un juge des enfants, elle est établie et elle est permanente.
C'est vrai que le dispositif, on pense toujours à la petite enfance, mais en fait, c'est un dispositif qui suit l'enfant plus que sur ses premières années. L'ASE, c'est quels sont les professionnels que l'on retrouve au sein de l'ASE ? J'imagine qu'il y a sage-femme, psychologue, on retrouve...
Alors, l'ASE, ça va être plutôt majoritairement des éducateurs, spécialisés. On a effectivement des psychologues, ça c'est vrai que c'est important d'avoir cette compétence pour ce qui se joue, comprendre aussi les dynamiques familiales à l'œuvre. Et puis après, on va avoir du personnel aussi administratif, en interne. Par contre, ce qui va être plutôt ce que vous citiez comme profession, sage-femme, puéricultrice, elles appartiennent à la PMI. Mais en Lozère, c'est une direction commune.
C'est donc, transversal, donc.
Tout à fait, les services sont complètement intégrés entre PMI et ASE.
À la base de ce dispositif aussi, j'ai cru entendre qu'il y avait eu des situations de parentalité hors structure qui auraient été nécessaires d'accompagner. Et donc, vous êtes dit peut-être qu'un dispositif pourra aussi permettre de solutionner ce problème-là.
Pour éviter les ruptures de parcours, surtout.
Alors, oui, l'objectif numéro un, en ce qui concerne notre autorisation de foyer d'hébergement, c'est d'éviter la rupture de parcours. C'est-à-dire qu'on est toujours, et ça va de mieux en mieux d'ailleurs, sur le fil entre, effectivement, ce qu'on peut mettre en place comme accompagnement, les relations qu'on a pu mettre en place avec la juge des enfants et le département sur ces sujets nous permettent de garantir, justement, le parcours des personnes. Parce qu'il ne faut pas que... un fait nouveau, en l'occurrence un fait nouveau important, qui est la parentalité, viennent perturber le parcours médico-social de la personne. En tous les cas, ce pourquoi elle est venue chez nous et ce pourquoi nous l'accompagnons et ce pourquoi il y a eu des évaluations des besoins pour l'adulte, j'allais dire, pour la personne. Il ne faut pas que ça puisse être rompu parce que effectivement on n'est pas en capacité d'accompagner cette question de la parentalité. Et ça a été effectivement au début, en tous les cas, il y a eu quelques difficultés sur ce sujet parce que les décisions de justice de placement, par exemple, étaient mal interprétées. Et donc on pensait que c'était le DSP ou en tous les cas le foyer qui donnait ces... les parents partaient puisqu'ils sont libres d'aller de venir, ils sont libres de nous faire une lettre de démission et de partir. Et donc on avait, la rupture au sens... de la parentalité, parce que placement, parce que voilà, mais aussi le fait que on perdait l'accompagnement des adultes. Voilà, et donc on les retrouvait dans des situations pas forcément les plus réjouissantes, d'inactivité ou de difficultés. Donc en tous les cas, on peut aussi intervenir. Mais bon, ça nécessite autre chose. Et d'ailleurs, on a eu là, ces jours derniers, un peu de discussion avec d'autres dispositifs, que ce soit les SAVS et tout ça. Parce qu'effectivement, on est repéré aujourd'hui sur le territoire pour pouvoir soutenir la question de la parentalité. Mais c'est pas parce qu'il y a en tous les cas, un besoin de soutien de parentalité que la personne elle doit forcément être hébergée dans un foyer d'hébergement, enfin, au sein de l'autorisation.
C'est d'ailleurs ce qui manque, parce que concrètement, sur les décisions que j'ai pu prendre, une dizaine de parents sont concernés par l'accompagnement du dispositif au soutien à la parentalité. Pour autant... beaucoup plus de parents en Lozère seraient concernés par ce type d'accompagnement où le service des tutelles de Lozère est quand même relativement important. Donc des parents en situation de handicap dont les enfants sont suivis par l'aide sociale à l'enfance ou d'autres services, il n'y en a pas que 10. Donc il y a encore, donc toujours un souci d'innovation, il y a encore des dispositifs à imaginer pour accompagner plus largement des parents en situation de handicap dans la prise en charge de leurs enfants.
Mais voilà, il faut qu'effectivement on arrive petit à petit en partenariat à avancer sur le fait que ce dispositif aujourd'hui, il est spécifique aux personnes qui sont en foyer d'hébergement, on va dire ça comme ça, voilà, pour aller vite. Il peut se développer sur d'autres enjeux, mais il ne faut pas que parce qu'il y a un besoin de parentalité, on exige, entre guillemets, des adultes ou des parents qu'ils intègrent les dispositifs d'hébergement s'ils n'en ont pas besoin. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, on a eu une expérience là où j'ai pu effectivement dire au chef de service du, je crois que c'était le SAVS et, ou le SAMSA, je ne sais plus, le SAVS et puis la mandataire, que effectivement, ce n'était pas l'objet. On pouvait tout à fait intervenir puisque la personne, elle est travailleuse des ZAT. Donc on a quand même un lien à un moment donné qui voilà, on peut tout à fait intervenir, c'est que la personne, on l'héberge, voilà. Donc ça, c'est important de le comprendre et de le savoir, parce qu'on crée du faux besoin, en fait, et on crée des difficultés, et là encore, on crée de la rupture de parcours. C'est-à-dire que si on exigeait, parce que quelques professionnels ont évalué qu'il fallait absolument que la personne soit suivie sur la question de parentalité, on la pousse, entre guillemets, hein, à intégrer un foyer d'hébergement. Le foyer d'hébergement, c'est fait. Alors même si nos foyers d'hébergement sont avec une multitude de possibilités, de prestations et de... Voilà, c'est pas le bon point de vue. L'idée, c'est vraiment de répondre, et de plus en plus d'ailleurs, parce que les politiques publiques nous y poussent, et puis de toute façon, éthiquement, de plus en plus, nous sommes là pour répondre aux besoins des personnes, ce qu'ils expriment. Voilà. On va un petit peu creuser pour voir si l'expression... et la bonne expression, en tous les cas, s'il n'y a pas d'autre chose derrière, mais c'est vraiment sur ce qu'ils expriment. Donc il faut absolument qu'on arrive à se positionner sur ça et qu'on ne soit pas dans une compensation d'un certain nombre de choses qui ne favorisent pas les personnes pour deux raisons. La première raison, c'est que si on crée le besoin, on ancre aussi les gens dans le territoire. Et qu'il y a peut-être des gens qui auront envie de partir un jour pour aller sous d'autres cieux. Et donc, si on les ancre sur le territoire par rapport à un besoin en particulier, eh bien, on occulte aussi le fait qu'un jour, ils aient envie de poursuivre leur vie ailleurs ou de faire autre chose, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la... Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut avoir aussi des personnes qui, parce qu'on va compenser, ou en tous les cas, accommoder... on va répondre à des besoins, mais très pratico-pratiques, sans les mettre en avant, sans les mettre acteurs de leur parcours, eh bien, vont considérer qu'effectivement, c'est aussi assez confortable et que donc, il n'y a pas lieu de se vouloir s'interroger plus loin que ça, et donc, il n'y a pas lieu de progresser dans la prise, dans l'adéquation entre ce que moi, je suis parent, et puis ce dont a besoin mon enfant. Donc, il y a ces deux sujets qu'il faut effectivement assez manœuvrer avec... vigilance, voilà.
On va peut-être donner la parole à Steven, qui est là, qui nous écoute attentivement depuis le début de cette émission, qui est d'ailleurs maintenant bien avancée. Steven, papa d'un petit garçon ou une petite fille ?
D'un petit garçon.
D'un petit garçon.
Oui, 8 ans.
8 ans ?
Oui, oui.
D'accord. Qui s'appelle ?
Enzo.
Enzo. Comment va Enzo ?
Il va bien.
Il a la forme ?
Oui, il a toujours la forme, lui. C'est atonique.
8 ans, ouais. 8 ans, c'est le bel âge.
Et là, Steven revient de son entraînement à son match de foot, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, de mon fils.
8 ans en arrière, on se dit quoi quand on va être papa ? Tu oui, te disais quoi ?
Oui, il y a eu plein de questions. Hein. Ah, oui. Parce qu'au début, j'étais pas en Lozère. parce que je suis à la base du centre de Tours, dans le 37. Et mon parcours, en fait, moi, j'étais en IME. Et je ne savais pas mon avenir, là où elle était. J'avais le choix entre... à ce moment-là, j'étais un jeune turbulent, on va dire comme ça, pour être poliment. J'avais le choix entre l'hôpital psychiatrique, parce que j'avais des troubles de suicidaires, comportement, avec au sein de ma famille. Et j'avais le choix aussi de travailler. Mais je ne savais pas c'était quoi un travail. En tant que jeune handicapé, ça m'a culté un peu dans la tête. Et au final, bah, j'ai pris le choix de... À la place de me prendre des cachets et rester tout en H24 en hôpital psychiatrique, bah, j'ai préféré le choix de travailler. Et à ce moment-là, mon IME m'a transmis en Lozère pour faire d'abord un stage. Et de là, après, au bout de 6 mois, une période d'essai avec derrière un embauche. Et de là, j'ai été embauché. Et de là, je me suis posé la question, mais... Faut que je me trouve une copine, je veux un enfant. Et d'ailleurs, quand on trouve la bonne personne, j'ai trouvé, et elle m'a posé la question, ça te dit d'avoir un enfant? Bah oui, mais comment après, on s'imagine les conséquences quoi, qu'on peut avoir et sur d'autres gens comme les éducateurs. Après, je dis. Et de là, après, il y a une période où on s'est mal compris avec un éducateur. Parce que aussi, il faut dire que les éducateurs, je leur dis pas tous que c'est tous des nuls, hein, non, au contraire. Mais c'est qu'il y a une façon à dire, en fait, entre le fait qu'ils disent, par exemple, je vais dire une bêtise, quand un appart voit qu'il est crade et en disant qu'il y a un éducateur qui s'impose de venir chez vous et dit que l'appart est crade, que, comment dire, je m'impose d'appeler la DAS pour qu'on retire la garde de l'enfant. Et là, il y a toute une question que je me suis posé moi dans ma tête. Qu'est-ce que c'est la DAS? Qu'est-ce que c'est la
DAS? Mais ça, après avoir eu ton enfant, donc
pas... Non, avant.
Avant,
oui, pendant que mon ex-compagne a été enceinte.
Enceinte,
oui.
D'accord.
Que je ne savais pas c'était quoi la DAS, quoi, en fait, en gros.
Ok.
Parce qu'on m'avait le mal expliqué.
Voilà.
Oui, c'est un peu pareil. Et je ne savais pas c'était quoi, en fait.
Ok.
Tant qu'on ne me le disait pas calmement, parce qu'en plus de ça, il s'est énervé. Alors, sauf que moi, déjà, à la base, je suis un nerveux, un faux calme, mais je n'avais pas compris le système, quoi. Et après, au fil du temps, je savais c'était quoi, quoi. Et de là, bah, après, il y a eu plein d'histoires que...
Donc, en fait, si je résume, au départ, les éducateurs n'ont pas trop su s'y prendre pour l'accompagnement pendant la grossesse. Parce qu'il y a 8 ans, le DSP n'était pas encore totalement structuré.
Non,
il n'y avait peut-être pas cette structuration.
Non, il n'y avait pas de structure,
encore,
non.
Juste.
Non.
Voilà. Okay.
Mais toi, tes questionnements, c'était quoi? Tu posais franchement la question de te dire, est-ce que je vais être capable... De m'occuper d'un enfant. Moi, en tant que parent, c'est une question que je me suis posée avant d'en avoir. Est-ce que je suis en capacité d'élever un enfant? J'en ai jamais eu, je sais pas. Enfin, c'est des questions que moi, je me suis posées. Toi, quelles sont les questions que tu t'es posées à titre personnel avec ta compagne quand vous êtes dit on veut avoir un enfant? C'était juste on veut avoir un enfant en fonce ou on se pose des questions sur l'avenir de ce dernier?
Moi, c'est entre les deux.
D'accord. Il y avait vraiment une envie, mais tu avais quand même des questions.
Il y avait des doutes.
D'accord.
Oui.
Et le dispositif n'existait pas alors encore?
Non.
Donc tu n'as pas eu cet accompagnement qu'on peut avoir maintenant.
Certaines des parents ont... Une des premières craintes qu'ils peuvent exprimer, c'est est-ce qu'ils vont transmettre à leur enfant leur handicap? Donc ça aussi, et il faut aussi les rassurer sur qu'un enfant, même avec deux parents qui ont un handicap, n'aura pas forcément le même handicap, justement s'il bénéficie d'une prise en charge adaptée. Parce que après, c'est comment on stimule un enfant et comment on l'accompagne à s'éveiller. Et voilà, moi, une des premières craintes que je peux entendre, c'est celle-ci. Est-ce que... Et ils attendent les bilans sur les premières années de vie d'un enfant. Les parents sont très sensibles soucieux des retours, des bilans, à savoir, alors qu'est-ce qu'ils ont dit, alors quelles difficultés il a, mais non, mais c'est pas les difficultés cognitives, c'est pas les mêmes que les vôtres. Après, il y a aussi
des mamans qui, je pense à une maman qui a une maladie génétique, c'est vrai qu'à l'arrivée de son enfant, ça a été la première angoisse, savoir si cette maladie-là allait... alors, il se trouve que c'est le cas, donc comment on accompagne aussi son enfant et cette maman qui a transmis cette maladie-là à sa fille.
C'était ton souci, toi, Steven, tu te disais, est-ce qu'il va être un petit peu comme moi, le petit Enzo?
Oui, c'est ça, oui, oui.
Et c'était quoi encore ton autre souci? C'était est-ce que je vais savoir trouver les bons gestes, savoir
faire?
C'est ça,
faire ouais. Ouais, ouais. Et heureusement qu'il y avait les puéricultrices qui m'ont bien expliqué, calmement, gentiment, dans le calme absolu, et que j'ai retrouvé mon parentalité, quoi, la question d'être père, parce que c'est tout le monde se pose aussi la question d'autres gens normales. Excusez-moi de mon expression, mais c'est des fois, ils se posent la question, mais comment vous faites, vous, en situation d'handicap, pour être parent, quoi? Il y a des fois, il y a du beau positif, mais il faut savoir aussi qu'il y a du négatif. Alors, quand je réponds sur le négatif, c'est, je suis comme tout le monde. Est-ce qu'on a un diplôme parentalité? Ben non. C'est au fil du temps, comme j'aurais dit aux gens, c'est au fil du temps qu'on apprend à être un bon parent. Il n'y a pas de mauvais ou de bons parents, c'est savoir à l'avenir.
Toi, tu as fait face à des préjugés...
Ah oui, carrément, depuis mon enfance. Hein.
Ouais. Oui, et encore plus en étant parent, j'imagine.
Et c'est ça. Hein. C'est comme là, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai eu mon BSR. C'était pas évident, mais que je sais pas lire, je sais pas écrire. Ça, c'est encore plus une difficulté dans mon avenir. Parce qu'heureusement que j'ai des éducateurs, qui est le DSP, qui font bien leur travail. Et... Qui nous aide aussi à préparer des choses calmement et gentiment, sans s'énerver, à poser la situation et qui nous apaise, qui nous guide un peu en fait. Voilà, un peu comme des guideurs.
Et aujourd'hui, alors, comment ça se passe hein, avec Enzo? Comment?
Oh, moi, c'est nickel, c'est le bonheur. Hein.
Alors, il est où Enzo là?
Enzo est en famille d'accueil sur MERS. Ça se passe très bien depuis ses 18 mois. Excusez-moi.
Pas de souci.
Et donc, il est en famille d'accueil sur Meruès depuis ses 18 mois. Oui. Et tu le vois à quelle régularité?
Je le vois tous les 15 jours.
D'accord.
Dans ces espaces de rencontre
Alors, non, pas pour moi.
Non, pas pour
moi. Steven, justement, parce qu'il y a le dispositif de soutien à la parentalité, reçoit Enzo un week-end sur deux.
Oui, dans mon domicile.
Voilà. Ah, et on élargit aussi quelques jours parfois pendant les vacances scolaires. Oui. Et c'est vrai que moi, l'évolution que j'ai pu observer, c'est maintenant, ce qui est travaillé, c'est sortir vers l'extérieur. Parce que c'était un papa très protecteur.
Oui.
Et donc aujourd'hui, le travail d'accompagnement, parce que quand Enzo vient, il est en sécurité, ça se passe bien, même si c'est un petit garçon qui bouge beaucoup. Il faut accompagner ce papa et ce petit garçon à aller profiter de l'extérieur. Et ça se prépare, c'est préparé en amont. Et comme les visites sont prêtes et tout est anticipé, les choses se passent bien et Enzo a beaucoup de plaisir à aller voir son papa. Et ce qui est important aussi pour Enzo, et comme pour beaucoup d'autres enfants, c'est que son papa, il l'autorise à aller bien ailleurs. Et c'est ce qui favorise aussi son épanouissement, c'est-à-dire que un petit garçon comme Enzo, il grandit bien parce qu'il n'a pas de conflit de loyauté entre ses parents et cette famille avec qui d'accueil, avec qui il vit au quotidien. Et à chaque fois, je félicite les parents qui autorisent leur enfant à être bien, à aimer d'autres personnes et à ne pas être dans ce lien exclusif avec le parent. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, être bon parent, c'est être capable de prendre des bonnes décisions et autoriser son enfant à aller bien ailleurs et avec d'autres personnes.
Alors que c'est une démarche compliquée.
Et c'est une démarche compliquée, et on en parlait il n'y a pas si longtemps.
Oui, parce que c'est du boulot aussi, quoi.
Mmh. Ah, c'est sûr.
Parce que ça demande du temps et de la patience et de la compréhension de chacun, tout le monde, quoi. Mmh. Parce que si on ne met pas les bons mots, bah, forcément, ça va déclencher un stress, de l'énervement, et on aura fait un travail pour rien, quoi. C'est quelque chose que je me dis. Et au niveau de la parentalité aussi, j'avais tourné aussi un film avec mon fils, avec Madame Anne. Et sur la parentalité, où je trouvais ça un peu pas mal, où on donne l'image d'un handicap, d'un adulte handicapé, sur l'image pour avoir de l'extérieur au niveau des gens. Et c'est ça que je trouvais pas mal aussi, quoi. D'avoir au moins une image d'un parent en situation de handicap sur là où je suis au foyer, comment ça se passe, et je trouve ça pas mal, quoi.
Un film, pas encore avec David Garcia, quand même.
Et non, non. Si, toujours.
Et si, ah, encore.
Ça fait partie des projets. C'était le premier, et c'était ce premier film qui avait reçu aussi un prix à Saint-Malo.
Oui, oui, oui.
Enfin, des scènes issues de ce film.
Oui, mais en tout cas, je ne suis pas Brad Pitt non plus. Hein. Ou Tom Cruise. Hein. Non, monsieur le directeur. Hein. Je vous rassure.
Alors, tu travailles en ESAT, là, c'est
oui,
ça, en ce moment?
Moi, je travaille en ESAT, oui.
Au Pôle Bois?
Oui, au
avec,
Pôle Bois.
Avec les copains qu'on a reçus dans l'émission?
C'est ça.
C'est ça qu'ils ont écouté.
Du bois de chauffage.
C'est ce que j'ai dit, tu ne travailles pas qu'au Pôle Bois, justement.
Non, non.
Vas-y,
je fais...
explique.
Alors, j'ai deux casquettes, comme on dit. Hein.
Comme je... moi.
Voilà, comme madame la juge. Je fais aussi, ça s'appelle Vagmestre, en fait, le courrier du Clos de Nid, que je distribue le matin. Et l'après-midi, je fais du bois de chauffage, je coupe bois de chauffage.
D'accord. Voilà.
Donc l'après-midi, tu es à l'ESAT au bois de chauffage, oui. Et après, tu as cette
matin.
Mission
oui.
de vagmestre.
C'est ça, le
et
matin.
Vagmestre ouais. qui consiste à mener le courrier à différents endroits
c'est ça.
Du Clos du Nid. Et oui. alors, la particularité, c'est que tu nous as dit que tu, à cause de tes troubles 10 divers, tu ne savais ni lire ni écrire.
Non.
Et comment tu fais
en
Explique-nous.
Fait,
ça, c'est
fait,
intéressant.
Oui. En fait, j'ai une application sur mon téléphone. Quand j'ai un courrier à un endroit. J'ai une application que je peux
tu scannes,
taper,
hein.
que je scanne et que en fait j'ai une voix de traducteur qui me lit en fait pour aller de tel endroit comme un GPS en fait.
D'accord.
Et voilà, c'est qu'est-ce que je me
sers. Formidable. C'est chouette.
Oui.
Hein. C'est chouette. Moi, je suis admirative de ça.
Oui.
Voilà.
Même si je ne sais pas lire et écrire, on m'a appris un peu la technologie et c'est ça où je me permets aussi avec mes collègues aussi, de transmettre aussi comment on peut faire. Tu as vu comment on fait, tac-tac, sur plein de types. Et que même pour les messages que je reçois aussi de ma famille, et ben j'utilise cette application-là. Ça me permet de lire un peu comme les réseaux sociaux et WhatsApp.
Voilà, en lien de la famille. Comment on s'accommode du handicap. En tout cas, c'est significatif de volonté avant tout.
Ah oui,
donc,
c'est ça, quoi.
Ça, c'est bien. Et alors, du coup, Madame la juge disait que tu allais faire des sorties avec Enzo.
Oui,
alors,
oui.
comme je sais que tu cours beaucoup, que tu fais beaucoup de vélo, est-ce qu'il va courir avec toi, Enzo, faire du vélo? Qu'est-ce que vous allez faire
là,
à l'extérieur?
Là, on fait
du vélo, d'ailleurs.
Oui, il a un vélo. Oui. Il fuse, quoi. Heureusement que je me mets un peu devant pour la sécurité, parce qu'autrement...
Il te double, je parie qu'il te double.
C'est ça.
Et sinon, alors, sur des sorties extérieures, vous allez au cinéma, vous allez...
Oui, on va au cinéma, au restaurant, voir son grand-père qui est à Tours, quoi, qui est à 600 km quand même.
D'accord, donc alors, tu l'as déjà pris, voir son grand-père à Tours.
Oui.
C'est chouette, ça.
Oui, ça permet aussi de partager, comme je disais aussi à la juge des enfants, de partager des moments entre son petit-fils et le grand-père aussi. Parce que pour moi, la famille, c'est primordial quand on n'en a qu'une et...
Bien sûr.
Le jour qui part, on ne peut pas se dire, ah bah, on peut revenir en arrière comme une cassette et puis refaire le monde, non.
Donc c'est finalement, ce petit garçon a une vie tout à fait normale avec son
papa,
tranquille,
il
voit son grand-père, hein, il va à Tours.
Oui, c'est ça.
Bah, c'est super.
Oui.
Parfait, on arrive à une heure d'émission, on arrive à la clôture de cette émission, c'est passé très vite comme toutes les hashtags précédentes. On verra pour le prochain thème, on ne l'a pas encore décidé ou on l'a décidé
jamais, on ne fait jamais du teasing hein, dans ces émissions,
c'est ça,
on sait jamais.
C'est qu'on ne sait pas en fait.
C'est ça.
Merci beaucoup à tous d'être venus.
Merci
Steven,
merci.
Et le bonjour à Enzo, hein,
d'accord,
pour écouter l'émission.
Ça marche.
Et on se retrouve le mois prochain, toujours pour hashtag, pour donner la parole à vous, personnes en situation de handicap. Merci.
Merci.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.